Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Parce que là, je vous présente la dernière fête d'Israël. Donc là, on fait les deux, le début et la fin, cette année ensemble. Donc, c'est agréable de penser que c'est on a parti puis on termine l'année avec les fêtes juives. Et j'ai hâte de partager avec vous aussi le rapport de ce que je vais... donner pour comment ça a été cette année. Ça a été une des années, je dirais, la plus fructueuse depuis bien longtemps. Donc, c'est vraiment encourageant de vous parler de tout ça. Donc, quand j'ai entendu mon directeur, Jacques-Isaac Abizon, donner cet enseignement, je l'ai entendu où est-ce que j'étais? Je ne me rappelle plus. Quelque part, est-ce que j'étais au Maine? Je ne me rappelle plus où j'étais parce que je voyage tellement que des fois, c'est ça, je ne sais plus où je suis. Et puis, j'ai écouté ce message-là et j'ai dit, « Wow, ça c'est le meilleur que j'ai vu M. Gabizon faire sur la fête des tabernacles. » Donc, si je peux mettre, oui, voilà, Sukkot, c'est comme ça qu'on lit l'hébreu de droite à gauche, ça dit Sukkot. Et on va voir c'est quoi un souka. Souka, c'est le genre de hutte ou de petit tabernacle et vous allez voir que vous en avez chez vous. Vous ne saviez même pas, hein? Donc, on vient de terminer cette fête, ça a pris fin mercredi dernier. Et puis, c'est une fête qui dure 8 jours. Et puis, donc, on va regarder cette fête-là. Si vous voulez tourner en Lévitique 23, je vous donne quelques temps pour y arriver avant qu'on cite un verset d'être là. Mais vous pouvez commencer à tourner. Il y a 7 fêtes et il y a 7 jours dans la semaine. Et le 7e jour, Dieu a donné comme sabbat aux Juifs. Sous la loi de Moïse. Heureusement, nous sommes affranchis de la loi de Moïse. Mais c'est comme si la 7e fête est notre temps de sabbat. C'est comme un genre de fête de sabbat. Et Dieu donne une ordonnance assez particulière. Bon, où est-ce que je vis ça, là? Ça ne va pas changer de diapo pour moi. Poigne vers en arrière. Donc, nous sommes ordonnés de se réjouir. Ça, c'est spécial. C'est une fois par année. Et aussi, cette fête parle à nos âmes, vraiment en profondeur, vous allez voir. Et ça nous projette dans un temps pour lequel nous avons tous hâte. C'est un air où on va avoir de la paix sur la terre et l'amour qui va régner. Un temps où l'homme va vivre en harmonie avec son voisin, avec la nature. C'est un moment où la Bible dit, non, là, j'aurais dû le tester avant. Peut-être je vais demander à quelqu'un en arrière de changer de diapo pour moi, parce que là, ça ne semble pas vouloir. Où le loup habitera avec l'agneau, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. C'est en Ésaïe 11, versets 4 à 6. Ça va être à ce moment-là que les animaux ne vont pas se manger les uns les autres, mais ils vont manger ensemble. Et par-dessus tout, c'est un moment où l'homme va vivre en harmonie avec son Créateur, quelque chose que tous les hommes désirent profondément. Il y a un anthropologue, Mircea Eliades, C'est un écrivain dans les affaires de religion et de l'anthropologie, pas un croyant du tout, mais qui appelle cette nostalgie une nostalgie du paradis, où c'est commun de tous les hommes, toutes les femmes et dans toutes les religions. Et dans ses recherches, il a trouvé que les anciennes religions, les nouvelles religions, sont tous convaincus qu'il y aurait un temps où l'homme est en harmonie avec la création, avec les animaux ou avec Dieu, et où leur système religieux, c'est vraiment pour arriver à ce point-là, et dans toutes les religions. Et le rôle de leur chaman, leur prêtre, leur rabbin, leur pasteur, c'était de rétablir cette communication avec le Créateur et de rétablir cette harmonie. Et ça, c'est en ligne avec ce qu'on voit dans la Bible. Ce vide que nous vivons est un genre de mal de pays, parce qu'il y a un trou, il y a un vide dans nos cœurs, et la parole de Dieu nous dit que c'est à cause du péché, à cause de la chute qui s'est passée au Jardin d'Éden. Et les Écritures reconnaissent ce problème et offrent une façon pour retourner à Dieu, justement, comme quand Adam marchait avec Dieu au paradis. Donc, la place que nous cherchons tous, ça s'appelle le ciel, même la Nouvelle Jérusalem. L'Évangile nous dit que Jésus est là présentement et il nous prépare une place pour tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui le reconnaissent, dans le fond, comme leur sauveur personnel. Et c'est ça que la fête de Sukkot nous rappelle en tant que croyants aujourd'hui. Pour le peuple juif, cette période de temps nous montre les temps messianiques, ce que nous appelons le millénium, parce que c'est 1000 ans. Mais pour tous les croyants en Yeshua, ça nous montre aussi l'état éternel où on va vivre éternellement. Et ce désir profond, toutes les femmes et tous les hommes des Écritures l'avaient gravé sur leur cœur. Et ils s'attendent toutes à ce moment-là, cette place, en sachant que c'est là où ils vont être après cette vie. Comme le pasteur a dit, ils ont préparé leur éternité. Et ils ont trouvé leur soukha. Le soukha, on va explorer c'est quoi cette idée de soukha. Soukhot, ça veut dire pluriel. Un soukha, deux soukhot. Okay? Donc, ça veut dire des tabernacles au pluriel, ou des refuges, ou des huttes. On voit qu'Abraham a été promis tout le pays de Canaan, mais il aspirait à plus que ça. Change de diapo, s'il vous plaît. Ça dit, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est en Hébreux 11, 10. Je l'ai fermé tantôt. C'était ça, sa nostalgie de paradis, et cette ville, c'est le ciel. Paul a aussi parlé de ça, vous pouvez changer de diapo. On le voit en 2 Corinthiens 5, 1, où il dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, et là on parle d'une tente de nos corps, mais on va parler d'une autre tente, sur cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. » Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 1. Et comme ça, la fête des tabernacles nous sort ça année après année, on pense à ça. Donc, les fêtes d'Israël, ce sont des Écritures et s'appliquent à tous les croyants de tous les temps. Et ce n'est pas juste l'homme qui aspire à ce moment-là, futur, où il y a cette paix. Dieu le veut aussi. Dieu cherche à être réuni avec son monde, avec ses enfants, au reste d'Israël et à tous les croyants. Il a souvent parlé de son désir de rétablir Israël, d'être avec eux malgré leur rébellion sans cesse. Par exemple, on lit dans le livre de Osée, on va voir si ça fonctionne mieux. Pas vraiment, alors peut-être. Il dit, « Que ferai-je de toi, Ephraim? » Ça, c'était le nom de mon papa en passant. Petit détail. « Dois-je te livrer, Israël? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Est-ce que votre Dieu est un Dieu plein d'émotions? J'espère. Vous le verrez surtout dans les petits prophètes. J'ai des disques dans l'enseignement là-dessus sur les petits prophètes. Vous allez voir Dieu dans toutes ses émotions. » Parce que Dieu ne va jamais quitter ceux qui l'aiment, ceux qui se sont engagés envers lui, qui ont donné leur vie à lui. Et il cherche toujours un moment de réconciliation pour ceux qui se sont égarés. Cette réunion entre l'homme et Dieu, la fête des tabernacles, nous rappelle ça année après année après année. On a besoin de se faire rappeler. C'est la seule fête qu'on appelle la fête du Seigneur. Il y en a juste une, c'est celle-là. La fête du Seigneur, on le voit en Nombre 29, et le Talmud, qui ce sont les écrits pas bibliques, mais extra-bibliques, ils appellent ça Chag, qui veut dire la fête. Quand vous lisez dans vos Bibles, c'était le temps de la fête, et vous dites quelle fête que c'est celle-là. C'est la fête des tabernacles. Et il y a un commandement exclusif, comme j'ai dit, de se réjouir, d'être content, même si on fait face à des épreuves, même si on a un conjoint, une conjointe qui vient de décéder ou je ne sais pas quoi, le pire affaire, un enfant qui part, qui s'est égaré. Dieu nous ordonne de nous réjouir. Wow, c'est quelque chose de volonté. C'est comme aimer qui est un choix. Ce n'est pas toujours une émotion, mais c'est un choix. Et Dieu dit de rire et de se réjouir chacun des sept jours de cette fête. Et c'était la loi. On était obligés. Donc, Jésus a fait ça parce qu'il a accompli chaque petit détail de la loi à notre place. Dieu n'a pas donné d'autres commandements à Israël de se réjouir pendant l'année. Cette fois-là, oui. Parce que là, ça nous pointe vers le retour, dans le fond, de Jésus, vers le temps que nous allons passer 1000 ans avec lui. Parce que ça finit bien l'histoire. Ça finit bien et Dieu veut qu'on vise la fin et pas juste viser nos troubles immédiats. Et pour augmenter ce souvenir, cette nostalgie future, parce que nous désirons quelque chose qui n'est pas encore, on est ordonné de vivre dans des huttes, dans des mini-tabernacles. J'ai apporté des photos, des exemples pour vous. Ça, c'est un exemple à l'extérieur d'une maison, je ne sais pas dans quel pays. Ce sont des structures temporaires, pas des tentes tout à fait, mais ils sont faits de branches et de feuilles. Et puis, on va voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Moi, je voulais toujours en avoir une chez nous, mais mon père ne voulait pas le construire ou le faire construire. Et puis, mais on était ordonné, si on ne couchait pas dedans pendant toute la semaine, il fallait au moins manger là-dedans. Et c'est ça que les Juifs font d'habitude aujourd'hui. Ils mangent dedans. Et ça, c'est l'intérieur d'une de ces tabernacles. On suspend les fruits, les légumes, tout ce que la terre vient de produire, on le décore. Et puis, c'est un temps s'inviter les uns les autres. C'est un temps de réjouissance. Et s'ils n'ont pas de place dans leur cour, mais il y en a qui s'improvisent autrement dans leur appartement. Le construit sur l'autre balcon. Mais le commandement biblique, c'était de vivre là-dedans quand même 7 jours. Et c'est quoi l'idée de quitter sa maison confortable? Imaginez, vous venez de nettoyer votre église de fond en comble, comme je viens d'entendre combien de fois, et on vous dit d'aller avoir votre culte à l'extérieur, peut-être même dans la pluie. Après que tout est propre et beau et merveilleux et on peut, tu sais, en tout cas, avec un gant blanc passer, puis ça passerait tous les tests possibles. Pourquoi? Il faut que ça reste propre. Mais pourquoi Dieu nous a dit de quitter là où on est bien, peut-être à l'intérieur de cet édifice, pour être à l'extérieur? Et le toit est censé être fait avec des branches pour laisser voir, ça c'est la tradition, laisser la personne voir les étoiles à travers les branches. Pourquoi? C'est pour nous rappeler qu'il y a un temps meilleur qui s'en vient. Aussi, le temps passe rapidement. Mais pourquoi est-ce que Dieu leur a demandé ça à leur dernière fête, à la 7e? Il aurait pu donner ça n'importe quand, parce qu'il a dit, et vous regarderez maintenant Lévitique 23, je l'ai pas à l'écran, verset 43 de Lévitique 23, Lévitique 23 parle des fêtes d'Israël. J'ai une étude en arrière là-dessus. si ça vous intéresse, toutes les fêtes, parce qu'on voit Jésus et on le voit revenir dans ça. Il dit en verset 43, « Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous tes tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, les enfants d'Israël ont vécu dans des soukas, dans des choses comme ça, dans des soukottes pendant 40 ans. Pourquoi mettre l'emphase là-dedans, dans la dernière fête? On voit combien il y a une futilité. Il y a, le temps passe rapidement ici-bas et nous pointe vers le temps à venir. Il y a des raisons que Dieu donne dans les Écritures. On voit en Deutéronome 16, verset 13, Deutéronome 16, 13, « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. » C'est quoi l'idée de « quand tu recueilleras » tout le grain, le vin, l'huile, tout ça là? C'est un temps où les produits de la terre sont les plus abondants. C'est le moment où les cuves sont pleines, les greniers sont pleins. Mais c'est aussi le moment où l'homme a le plus tendance à oublier Dieu. Parce qu'il a tout. Tout est beau. Il est comblé. Il peut oublier Dieu. Il était plus susceptible à croire que tous ses besoins sont comblés. Qui a construit, a bâti son ciel sur la terre. Il n'a pas besoin de Dieu. Et c'est à ce moment, ce meilleur moment de l'année, où Dieu dit, sors de là. Entre dans quelque chose de temporaire, de fragile. Que le ciel, ce n'est pas ici-bas, c'est là-haut. Dieu leur a dit combien de fois, comme en Deutéronome 8, il a dit, vous allez avoir un moment où vous allez penser que tout est bien. Deutéronome 8, verset 10, ça dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tout est bien, hein? On est comblé. Verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et le verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Sukkot nous montre un temps béni à venir, mais aussi ça nous rappelle que notre temps ici-bas, c'est transitoire. La vie n'est pas ici-bas. Il y a un autre pays qui nous attend. Jésus nous dit d'investir là-dedans et de vivre toujours avec un souvenir de l'éternité. Comme sa sœur Israël, le corps du Messie marche encore dans une espèce de désert. Notre planète est belle, mais il y a tellement de mal, de méchanceté dans le monde et son avenir est fragile aussi. Pas très solide, il y a des guerres, des rumeurs de guerres, des guerre peut-être plus grosse, peut-être quand on vit ici-bas, il faut toujours garder notre espoir pour quand on va être réunis ensemble dans l'enlèvement pour monter, être avec le Seigneur éternellement. C'est sûr qu'on va revenir avec lui pour 1000 ans, mais il y a une illustration, peut-être vous avez entendu parler des gens qui voyageaient au Moyen-Orient et ils avaient entendu parler d'un homme sage, très dévoué, très pieux. Et ils ont vraiment pris un détour pour aller rencontrer cet homme-là. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont trouvé qu'il vivait dans une maison super simple, vraiment très, très simple. Tout ce qu'il y avait, c'était un lit pas très confortable, une chaise, une table et un vieux poêle pour chauffer et pour faire à manger. Les visiteurs ont été vraiment étonnés pour voir qu'il n'y avait presque pas de possession. Et un des voyageurs lui a demandé, « Mais c'est où? Où sont tes meubles? » Et l'homme âgé a doucement posé la question, « Où sont les vôtres? » Le visiteur a dit, « Mais nous, nos meubles sont chez nous, je ne la transporte pas avec moi, je suis en voyage. » Il a dit, « Moi aussi, je voyage vers autre chose. » C'est ce que le Sukkot va produire en nous, un rappel que nous sommes à Dieu. Et on doit se rappeler qu'il y a une place qui nous attend au ciel, qui nous attend. Bien sûr, si nous avons vraiment invité Jésus de venir nous laver de nos péchés, que le pardon vient uniquement par le sang précieux et parfait de Jésus-Christ. C'est une invitation qu'on doit faire. Qu'est-ce que les Juifs lisent pendant cette fête-là? On va se concentrer surtout sur le dernier jour de la fête. Vous savez que les Juifs divisent les cinq livres de Moïse dans les portions pour lire une partie à tous les samedis pendant toute l'année. Et quand ils arrivent à la fin de Deutéronome, ils recommencent le même jour, Genèse, pour montrer qu'il y a un cycle qui finit jamais. La lecture de la Bible doit être continuelle dans notre vie. Et ils finissent leur lecture de Deutéronome, le dernier jour de la fête, qui s'appelle la réjouissance autour de la loi. Et on mange en tout cas, on invite tout le monde de venir à la synagogue ce jour-là, puis on donne des pommes enrobées de caramel avec des noix, tous les enfants aiment ça. Et puis, on danse avec la Torah autour, parce que la parole est sucrée, et notre pain, c'est notre eau, c'est tout ce dont on a besoin dans cette vie, c'est d'être dans la parole chaque jour. Donc, ils lisent la fin de Deutéronome, et ils commencent tout de suite avec Genèse 1 et 2. Parce que ça les amène où? Au Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden était le temps d'harmonie avec Dieu. C'est le temps que Sukkot nous montre, ce temps d'harmonie, de nouveau, avec Dieu. Mais il y a un autre livre qui lise aussi en même temps, peut-être ça va vous étonner. C'est le livre, s'appelle en hébreu Kohelet, qui veut dire le livre de Ecclésiaste. Et ça décrit une vie fragile, la nature transitoire de ce monde. Et c'est un livre qu'on lit quand on est dans notre soukha dehors. Et c'est considéré, la plupart des gens pensent que c'est tellement pessimiste ce livre-là. Par exemple, ce que nous lisons dedans, ça dit « vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. « Vanité des vanités », comme s'il avait déjà dit « toutes des vanités ». Wow, on comprend ces vanités. Le mot c'est « Abel » qui veut dire « souffle ». Vous vous rappelez, ici au Québec, c'est clair, quand on va dehors, puis on souffle dans l'air hivernal, là, notre souffle disparaît aussi rapidement. C'est ça l'idée de notre vie, ça disparaît rapidement. Ce mot « souffle » est mentionné 37 fois dans ce petit livre d'Ecclésiaste. Mais comme ce livre ne parle pas juste de l'idée que cette vie passe rapidement, mais ça nous rappelle que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Le mot « olam », c'est le mot « éternité ». Ça parle de l'infinité, un moment qui n'a pas de temps, pas temporel, hors de ce monde, quelque chose, une autre dimension, un temps qu'on n'a jamais expérimenté, mais tous savent que ça existe. « Olam », c'est l'éternité en harmonie. C'est ce que nous désirons tous vivre. Et Sukkot est ici pour nous parler de ce temps à venir qu'on ne doit jamais oublier. Au début du livre d'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui l'a écrit. Il parle de toutes ses richesses qui l'ont aveuglé. Il était tellement riche qu'il a dit, « Tous ceux que mes yeux avaient désirés, je les en ai point privés. » Oui. Oui, ses yeux étaient rendus trop grands. Il a fini avec 700 femmes, 300 concubines. Vraiment, il s'est donné tout ce qu'il voulait. Mais comment est-ce qu'un homme si sage aurait pu devenir si aveugle? 12 fois dans le livre, on l'appelle roi, parce qu'il avait tout ce qu'il voulait, toutes les possessions, les plaisirs, le pouvoir, le prestige. Il était tellement sage que les gens venaient de l'extérieur et de partout dans le monde pour contempler sa sagesse et ses richesses, mais tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a reçu, l'a fait enfler jusqu'à quand il a vu qu'il avait tout ce qu'il voulait. Si Dieu n'était pas là-dedans, c'était de la vanité, c'était vide, c'était même déprimant. Mais regardez la conclusion de Salomon à la fin de sa vie et à la fin de son livre. Prends-le de lui parce que c'était lui l'homme le plus riche au monde et aussi Dieu dit qu'il était le plus sage au monde. Comment est-ce qu'il a décrit la vie qui pourrait très bien décrire la fête des tabernacles. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est comme s'il dit, c'est ça, c'est à votre intérêt de suivre ce que Dieu t'a donné à suivre. Ce n'est pas juste que Dieu aime faire des règles, c'est parce que c'est à votre intérêt. Vous allez avoir le plus de plaisir. C'est là ce que doit faire tout homme. Ça, c'est la conclusion et en même temps, ça résume tout le message de Sukkot. Cherche Dieu toute ta vie. C'est ce que ton être désire et ça, c'est la réponse à tous nos désirs. Notre recherche, poursuite d'être heureux, quoi que nous fassions, mettons Dieu en premier et nous allons être bénis. Les jeunes gens, surtout, écoutez Salomon. C'est l'homme le plus riche, le plus intelligent de tous les temps. N'oubliez pas Dieu. Regardez au-delà de ce que ce monde offre. Il y a une autre tradition que je veux vous amener aujourd'hui, que, en passant, M. Gabizon a enseigné ce message à Montréal il y a 2 samedis, il y a 8 jours, et je l'ai tellement aimé, j'avais hâte de l'enseigner. Donc, avoir une occasion, j'ai dit oui, c'est tellement bon. Il y a une autre tradition que je veux vous mentionner, et ce qui va nous amener directement à Jésus, et ce qu'il a enseigné pendant la fête des tabernacles, quand il était au temple à Jérusalem. La tradition tourne autour de ce qu'on appelle le lulav. Lulav, c'est un nouveau mot pour vous, mais lulav veut dire palmier, comme une branche de palmier. Et ça nous parle, croyez-le ou non, je vais vous montrer, de notre futur éternel, et qui était aussi présent à l'époque de Jésus. D'abord, c'est basé sur Lévitique, vous pouvez tourner à Lévitique 23, verset 40. Nous voyons l'ordonnance, où ça dit, « Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » Donc, en plus des palmiers, qui était le premier, il y a des branches d'autres arbres très feuillus, comme on utilise le myrte en Israël, et aussi des saules, et qui ensemble constituent cette lulav. Pardonnez-moi, vous voyez le palmier qui dépasse ici. Ici, c'est une feuille de saule, et ici, vous voyez que c'est des branches feuillues. Ça, ce n'est pas un citron. Ça parle à la forme d'un citron. On l'appelle un etrog en hébreu. C'est gros comme ça environ. C'est énorme. C'est comme une pamplemousse aplatie un peu et qui a une odeur, je ne peux pas décrire. C'est un agrume, mais wow, juste sentir ça, là, ça m'amène dans un souka. Parce que c'est. Et on peut payer cher. Si vous payez 1 piastre pour un citron, vous trouvez ça cher. Ici, les gens, tenez-vous bien, peuvent payer au-delà de 100 $ pour leur etrog parfait, sans point noir nulle part. Le jour de Sukkot, le lulav, ici, est brassé dans chaque direction. On commence toujours dans l'est, et on fait l'ouest, le nord et le sud pour nous montrer que Dieu est partout. On commence dans l'est, parce qu'on sait qu'on vient de l'Est. Le jardin d'Éden était à l'Est. On voit ça en Zacharie. Et aussi, le Messie va venir de l'Est. Donc, on s'attend à son retour en Zacharie 14, 4. Et c'est comme s'ils disent que les temps messianiques viennent. On voit des pièces de monnaie avec le citron et le palmier sur les pièces de monnaie du temps des Maccabées. À peu près 100 ans avant Jésus-Christ, parce que les Maccabées voulaient amener les temps messianiques, eux. Mais ils n'avaient pas compris que le Messie devait venir en premier, être rejeté, mourir et ressusciter. Ils n'avaient pas compris cela. Et après le passage qu'on vient de voir en Lévitique, on voit le palmier dans le temple qui est décrit par Ézéchiel en chapitre 40 à 48, on voit le temple, le quatrième temple. Il va y avoir un troisième temple qui va être construit, qui sait, peut-être d'ici un an. parce que tout est prêt, sauf la vache rousse. On a tout trouvé, tout construit, sauf on n'a pas encore rassemblé ce temple que Dieu va dire et pas selon lui, et pas béni par lui. C'est condamné d'ailleurs de lui, qui va devoir être détruit à la fin de la tribulation pour qu'il érige lui-même avec des gens son quatrième temple. Et on voit, j'ai une représentation par ordinateur du quatrième temple, selon les versets que nous voyons dans Ézéchiel 40 à 48. Et on peut voir beaucoup de palmiers. Il y a des palmiers que Dieu dit de mettre partout. Regardez. Ça, c'est à l'intérieur. Vous voyez des palmiers. À l'entrée du place Saint, il y a aussi des palmiers partout. Donc, le palmier, ça joue un rôle important dans l'histoire d'Israël et aussi dans les Écritures et même dans les Évangiles. Par exemple, il y a l'entrée triomphale en Jean 12, où on voit pendant la fête de la Pâque, Jésus entre sur un âne 4 jours avant la crucifixion et il dit en Jean 12, versets 12 et 13, « Ils ont pris des rameaux des palmiers et sorti au-devant de lui et criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Pourquoi ils ont pris des branches de palmiers? Ils sont allés à sa rencontre. Parce que les palmiers leur rappellent les temps messianiques. Ils croyaient que Jésus était là pour établir l'ère messianique, pour établir le royaume. Mais parce que les palmiers ne figuraient pas dans la Pâque. On a fêté la Pâque ensemble. Je n'avais pas apporté d'image de palmiers, pas du tout. Ils ont compris que Jésus était le Messie. Ils s'attendaient à ce qu'il monte et construise son royaume. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Mais il a dû venir mourir pour leurs péchés avant. Ça, ils n'avaient pas compris. Vous voyez le même motif ici en Apocalypse. C'est le bon timing. On trouve des martyrs du temps de la tribulation ou après l'enlèvement qui peut arriver avant qu'on quitte la pièce aujourd'hui, on peut être enlevé. C'est imminent. Donc, il y a des temps des martyrs de la tribulation qui est représenté par la fête qui précède, la fête des tabernacles, qui s'appelle, c'est pas vraiment une fête, mais c'est un temps solennel, le jour de l'expiation, qui est accompli dans la tribulation. Et ça dit, on voit ces martyrs qui se tenant devant le trône et devant l'agneau pour qu'ils puissent entrer dans les temps messianiques. Ça dit après ces choses, Apocalypse 7, 9, « Je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer. » Ah, merci. « Et de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant de quoi? Des palmes dans leurs mains. » Des palmiers, ce n'est pas juste des gens d'Israël, hein? C'est des gens de toutes les nations. Hein? Donc, le loulav, le palmier, c'est un symbole de tout ce temps de harmonie à venir. Donc, jusqu'à date, on a vu que toute la fête de Sukkot ou des tabernacles nous montre ce temps de harmonie et paix que la Bible nous promet. Il y a uniquement Dieu qui peut combler ce désir intérieur profond que chaque personne a, et il peut le combler dans l'éternité, à notre vrai pays qui nous attend. Et même, il promet de nous prendre avec lui. Parce qu'il a dit, et surtout dans nos jours, quand on entend des nouvelles troublantes, il a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit. Car je vais vous préparer une place. Ça, c'est la promesse de ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur personnel, qui ne s'appuient pas sur leurs œuvres ou autre chose pour être pardonnés par le Dieu Saint de tout ce qu'ils ont pu faire, même une mauvaise pensée. que la Bible appelle le péché, ceux qui sont engagés à lui. Et aussi, qui peut nous prendre au ciel? Mais uniquement celui qui est monté au ciel, Jésus. En Jean 13, 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a juste lui qui peut nous prendre avec lui. Il n'y a personne qui peut prendre une âme et l'amener au ciel dans un rien de temps. Maintenant, on va juste prendre quelques minutes pour regarder ce que Jésus a enseigné rapidement pendant la fête des tabernacles. C'est tout le chapitre 7, 8, 9 et 10 de Jean. On va juste regarder quelques points rapides. En Jean 7, verset 2, ça dit, « Or, Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, vous voyez, ça dit juste la fête, la fête. Hein? Quand c'est la fête, c'est toujours tabernacle. La fête des Juifs était proche. Et ce qui suit, c'est le message de Soukhot encore et encore et encore pendant 7, 8, 9 et 10 de Jean. Deux événements se sont passés, je vais vous raconter, quand Yeshua a pris comme fond pour son enseignement, la fête des tabernacles. Il y a trois fêtes où les Juifs sont ordonnés de se rendre, tous les mâles, à Jérusalem. Donc, en temps normal, il n'y avait pas autant de monde, mais il y avait peut-être 200 personnes qui vivaient à Jérusalem. Des historiens nous ont dit qu'à Soukhot, il y avait au-delà d'un million de personnes. C'était très animé, plus de cinq fois plus le nombre. Il y avait deux cérémonies importantes qui étaient vraiment dessinées pour les rappeler les temps messianiques. Il y a la cérémonie du puisement, de puiser l'eau, je vais vous montrer, et la fête des Lumières. Et le Talmud, qui est encore là, ce n'est pas la Bible, mais c'est des passages qui sont extra-bibliques, nous montrent. Je vais commencer avec la cérémonie de puisement de l'eau. Vous voyez, il y a deux carrés ici et là. Et puis, les prêtres descendaient du temple à chaque jour des sept jours de la fête. Et puis, ils descendaient à la piscine de Siloé, qui est ici, avec des pichets en or pour puiser l'eau. De là, et il y avait une grande cérémonie. Ils remontaient au temple et on va montrer ce qu'ils font avec. Ils vont verser cette eau sur l'autel. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a comme un coulement. L'eau coule à partir de l'autel sur le côté. Pourquoi? Et ils font beaucoup de musique et beaucoup de fêtes. Ils prennent des saules. C'est comme si ça représentait le jardin d'Éden. Mais ça nous rappelle l'image que nous avons dans le temple d'Ézéchiel, où l'eau coule directement à partir de l'autel. Donc, c'est exactement ça qu'il essaie de reproduire. Donc, je vais juste vous lire chapitre 47 d'Ézéchiel, verset 1, ça dit, « Il me ramena vers la... » Ça, c'est illustré ici. Ézéchiel dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, encore vers l'Est, car la face de la maison était à l'Orient. » L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Ézéchiel a vu cette rivière qui coulait de l'autel et cette eau qui donnait la vie. Même tout ce qui touchait à cette eau revenait en vie. C'est une rivière de vie. Tout ce que ça touche, ça rend la chose complète, entière. C'est ce que les Israélites désiraient profondément. Ils avaient le goût de penser au temps messianique. Donc, ils versaient l'eau sur le côté de l'autel pour leur rappeler exactement ce qui va arriver dans l'avenir. Et c'est ces eaux-là auxquelles Jésus a fait référence quand il a dit ces mots qui étaient vraiment appropriés. Et là, ça vous touche individuellement. Tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Savez-vous que cette rivière-là que je vous ai montrée dans la diapo précédente se rendait jusqu'à la mer Morte? Donc, tous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé en Israël. J'ai eu l'occasion d'être donné un cadeau deux fois d'aller en Israël. Et puis, tout est mort. Mais cette eau, quand ça va toucher la mer Morte, va reprendre vie. Même il va y avoir une quantité énorme de poissons qui vont vivre là parce que cette eau amène la vie. Et deux tiers de la mer Morte, vers le tiers du haut et le tiers du centre, vont avoir de la vie. Le tiers du sud, Édom, va rester mort. Ça, c'est un autre enseignement pour un autre jour. Pourquoi? Mais ça fait partie de Édom qui est condamné éternellement. Donc, cette soif dont Jésus parle ici, c'est la soif de notre âme. C'est la soif de notre être. Mais, ce n'est pas nécessaire de juste dire, ah, c'est futur, c'est dans l'au-delà, je vais être comblé plus loin, pas aujourd'hui. Non. C'est pour aujourd'hui, Jésus dit, venez buvez, n'est-ce pas? Venez à moi et buvez. En ce moment, on peut boire de ces bénédictions-là. Je vais vous parler tantôt. Je vous laisse sur votre soif. Maintenant, on va voir la deuxième cérémonie, qui est la cérémonie de lumière. Et on va voir ce que Jésus a dit. Ça dit qu'il y avait quatre lampions énormes. Je vais vous montrer ça tantôt. Ça dit qu'ils ont fait des mèches, ils les ont utilisées pour allumer les bougeoirs. Il y avait des bougeoirs énormes, de comme 40-50 pieds. Il n'y avait pas de cour à Jérusalem qui n'était pas illuminée par la lumière de la place où on puisait l'eau. Des hommes pieux qui faisaient de bonnes œuvres dansaient devant les bougeoirs avec des torches allumées dans leurs mains pour chanter et pour louer. C'était vraiment un temps de réjouissance. J'ai une image d'un artiste ici à vous montrer. Donc, il y avait quatre lampes énormes et chacun avait encore quatre. Et puis, on célébrait cette lumière et les gens dansaient, chantaient des louanges à Dieu. Et ça, c'est après avoir pris un repas ensemble et parce qu'ils sont ordonnés de manger ensemble. C'est comme un souper communautaire géant. Et là, on boit, on mange, on danse, c'est merveilleux et on se réjouit. Et même les lumières qui rayonnaient de Jérusalem, on pouvait les voir de partout. C'est pour ça qu'une ville sur une colline ne pouvait pas être cachée. C'était pendant cette fête-là qu'on faisait référence. Les historiens disent que tout le monde, même des kilomètres et des kilomètres de loin, pouvait voir Jérusalem. Quel est le but de faire tout ça, là? Parce que Jésus va régner à Jérusalem, n'est-ce pas? Jésus va régner là. En Ésaïe 60, on parle du temps messianique, parce que le temps messianique parle de lumière. Regardez ici en Ésaïe 60, verset 19. « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » C'est comme ça qu'il a dit aux Israélites de remplir leur mal de pays futur, leur nostalgie future, de penser au moment qu'ils vont avoir cette lumière-là, que Jésus va être notre lumière. Jean l'apôtre a dit la même chose, par exemple, parce que la Bible, c'est tout un livre. Il n'y a pas ancien, nouveau, là, c'est vraiment un entier. Jean a dit la même chose en Apocalypse 21-23 quand il dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Plus de nuit, la présence de Dieu va illuminer toute la place. » Même ailleurs dans la Bible, ça dit que le soleil va briller 8 fois plus fort. Pas besoin d'écran solaire, j'imagine. Et c'est à ce moment-là que Jésus leur a parlé des mots pour dire, « Venez à moi! » Qu'est-ce qu'il a dit pendant la fête des tabernacles? Il a dit, « Je suis la lumière. » Là, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, le désir de notre monde, ce désir profond pour un monde meilleur, est trouvé uniquement en Jésus. C'est lui la réponse. C'est à lui que les soukottes, que les petites tentes nous montrent. Cette offre est encore là. Est-ce que vous l'avez reçue? C'est le seul qui peut combler nos désirs et nos besoins les plus profonds dans nos cœurs. Quels sont le message de ces deux cérémonies? Dieu les a vraiment étampés avec un miracle messianique que uniquement lui pouvait faire quand il a guéri l'homme né aveugle, qui est un type de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont nés dans le péché aveugle, n'est-ce pas? Nous sommes tous nés aveugles. Il y avait une affaire de guérir quelqu'un qui est devenu aveugle. Oui, ça a été fait des miracles comme ça. Mais personne n'avait guéri quelqu'un qui est né aveugle. Et on dit, le Messie va le faire quand il va venir. Donc, Jésus l'a fait. En Jean 9, verset 32, ça dit, « Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. » On va voir comment il a guéri dans une minute. Donc, toi, tu peux dire ça, la même chose pour ton salut, si tu as vraiment reçu le don de Dieu par une invitation personnelle dans vos vies. Parce que chaque salut représente le plus gros miracle que jamais. Votre salut. Voyez comment Jésus l'a guéri ici, en Jean chapitre 9, versets 6 et 7. « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui veut dire « envoyé ». Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Jésus aurait pu juste dire « Vois !» Puis l'homme aurait vu. Mais il a fait de la boue pour l'appliquer sur les yeux. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Mais l'homme, vous et moi, et Adam surtout, a été fait quoi? De la terre. De la terre. Et en utilisant cette poussière-là et en faisant de la boue, Jésus a montré que le salut, c'est un acte de Dieu. C'est divin, parce que c'est par un acte divin que Dieu a créé l'homme, qui a créé Adam, qui vous a créé. Et il n'y a aucune façon d'être guéri à part Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. Et là, il a dit, « Allez vous laver à Siloé. » Pourquoi à Siloé? Il y avait plein de bassins d'eau au temple. Il y avait de l'eau partout, partout. Pourquoi qu'ils doivent descendre aveugles, ne voyant rien, descendre à pic une place? Pourquoi aller là? Parce que c'est là où les prêtres allaient avec leur pichet en or. C'est là où il y avait la plus grosse célébration de toute l'année. Donc, c'était là le grand central de tout Israël, était là pour être un témoignage aux gens. Jésus était là pour leur offrir le salut. Moi, je dis Yeshua, mais c'est Jésus, Yeshua. C'est son nom en hébreu. Son nom veut dire salut. Il est venu te sauver si tu acceptes ton offre. C'est ça que Sukkot nous fait rappeler chaque année. Aussi, on voit la piscine de Siloé en Ésaïe 8, versets 6 et 7, où le Seigneur a utilisé ça comme symbole pour cette eau, comme le salut. Regarde comme il a fait ça. Avec ces mots en Ésaïe, il résume la fête de Sukkot avec le message de Jésus. Il a dit, « Parce que, vous voyez comment les versets sont séparés, il y a un choix. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. » Ici, ça coule doucement. Ici, c'est des eaux, des grandes eaux, et les eaux puissantes. Il y a un contraste. Il y a quelque chose qui va gagner les ennemis de Dieu. Qu'est-ce qui va les gagner? Les puissantes et grandes eaux. Mais nous avons la possibilité de recevoir le salut comme une eau douce. Lequel allez-vous choisir? Cette offre est sur la table. au moment d'Ésaïe, il y avait un contraste entre les Assyriens qui ont pris Israël dans le nord, Juda dans les Babyloniens ont pris Juda dans le sud pour prendre Jérusalem. Dieu offrait des eaux douces. Qui est doux? Plus que Yeshua, que Jésus. Vous n'allez jamais trouver un homme, Dieu plus doux et plus aimant. L'offre est sur la table. L'avez-vous reçu? Et c'est dans cette même section de Jean 7 à 10 où on voit le discours par rapport au bon berger. On voit Jésus qui veut vous recevoir. Il donne sa vie pour ses brebis. Il finit son discours avec ces mots qu'il dit deux fois. « Je suis » en Jean 10, 11. « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et encore là, « Je suis le bon berger. » Verset 14. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » C'est une invitation aux eaux douces de Siloé d'appliquer son eau pour que nous puissions le voir. Comme l'homme né aveugle a fait et a été sauvé. Tout est dans ce message de Sukkot. Pour aujourd'hui, Sukkot nous dit qu'il y a un autre monde à venir, qu'il y a un monde de paix dans l'avenir. Quand on pense au ciel ou le royaume messianique, c'est un refuge pour nous quand on est troublé. Il y a un fondement qui est très solide, un grand espoir. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre ça pour vivre la paix, pour bénéficier du soukha de Dieu. Regardons ensemble le psaume 31. C'est marqué où nous pouvons vivre le soukha aujourd'hui. Tu les caches dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l'homme. Tu les mets à couvert dans une loge. Le mot c'est soukha. Loin des contestations des langues. Aussi, dans le verset qui précède, ça dit, « Ta bonté est grande, tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent, et tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se confient en toi. » Donc, si on se confie en lui, on est abrité. Vous venez de préparer votre bâtisse pour l'hiver, mais là, il y a de quoi pour être prêt à faire face aux épreuves de cette vie, d'aller dans votre soukha. Oui, votre soukha chez vous. Je vous ai promis qu'il y en avait un. C'est là où vous lisez la parole chaque jour. Vous pouvez entrer et vous réfugier chaque jour dans la prière, dans la parole. Si vous mémorisez la parole, vous entrez dans votre soukha, même en faisant la file à l'épicerie. Vous êtes à l'abri. Vous êtes protégés parce que Jésus est notre soukha. C'est la place où on peut sortir de ce monde, nous asseoir, prier et avoir de la communion avec notre Sauveur. C'est la place où nous lisons nos Écritures et nous approcher de Dieu. Votre soukha, c'est l'Église grâce et vérité, où on peut se réunir et adorer Dieu. On ne peut pas mettre trop d'emphase sur cette fête, si vous comprenez. Ça nous montre les temps messianiques. On a vu que c'est la fête du Seigneur, comme si Dieu aussi désire ardemment vivre ce temps d'unité avec nous. Ce soukha a commencé à la Pâque, mais quand même, tabernacle, c'est le dernier des sept fêtes de Lévitique 23 qui nous rappelle que Jésus nous a achetés à la Pâque. Donc, le soukha relie la première fête que nous avons fêtée au printemps avec cette fête de la fin. Et à Pâques, le Messie meurt et à Sukkot, nous vivons avec lui. Une dernière chose par rapport à Salomon. Comment est-ce qu'il se sentait après avoir eu tant de bénédictions et comment il a fait patate avec? Comment est-ce qu'un homme peut se sentir à voir que son pays coulait et était pour être divisé à cause de ses actes à lui? Il y a une chose qui manque dans ce livre d'Ecclésiaste, et parce que sûrement Salomon s'est rendu compte que ses actes étaient graves. Qu'est-ce qui manque? C'est le nom de Dieu propre. Les quatre lettres hébraïques du nom de Dieu, Yod, He, Vav, He. C'est quelque chose qu'on trouve dans tous les autres livres, des Écritures. Au lieu de ce nom-là, on a utilisé le mot Elohim. Elohim vient de deux mots, El, qui veut dire Dieu, et fort et puissant. Et c'est d'être frappé par la crainte. Peut-être Salomon était frappé par la crainte, parce qu'il ne pouvait pas appeler Dieu par son nom propre, parce qu'il était tombé si bas. Peut-être comme Pierre, comme Pierre a nié Jésus trois fois, ensuite Jésus est revenu, est venu le consoler et lui demander deux fois s'il l'aimait en utilisant le mot profond pour amour, agapé. Mais Pierre a dit, il peut juste filéo, un amour fraternel pour plus. Mais et Salomon et Pierre, les deux, ont vraiment agapé Dieu, comme leur histoire nous rend témoignage, parce que notre Dieu les aimait profondément. Quand Salomon est né, il est écrit en 2 Samuel 12, 24, que le Seigneur l'aimait. Mais le Seigneur savait qu'il allait tomber. Il savait aussi qu'il allait remonter, et son nom est mentionné plus de 275 fois dans la Bible. Imagine quelqu'un dont le nom est mentionné plus de 275 fois. Parce que Dieu tenait à Salomon. Ce qu'on apprend ici, que Dieu voit comment nous allons être. Dieu nous voit sanctifiés, réformés, changés et justes en son Fils Jésus. Si Salomon n'était jamais tombé, on n'aurait jamais eu ce grand livre de l'Ecclésiaste. Et je termine avec une illustration. Un couple dans la quarantaine à peu près voulait aller à Capri. Peut-être vous avez entendu de l'île de Capri sur la côte de l'Italie. Ils ont mis Capri dans leur GPS de bateau, mais au lieu de mettre Capri, ils ont mis Carpi. Ça, c'est une ville à 400 000, d'être là. Et finalement, ils ont découvert leur erreur et ils ont été étonnés, mais pas fâchés. Ils se sont mis dans l'auto parce qu'ils avaient amarré, puis ils se sont mis dans l'auto, ils sont allés à cette autre ville. Si vous mettez la mauvaise indication dans votre GPS, vous allez finir à la mauvaise place. Tous les chemins ne finissent pas à Capri. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. La Bible dit qu'il y a un chemin, mais vous pouvez ajuster votre tir et choisir maintenant d'aller à la bonne place, de recevoir cette offre de Dieu, de Jésus, qui est le seul chemin à Dieu. Amen. Je peux faire oui? Prions ensemble. Notre Père céleste, aide-nous à vivre par la puissance de tes promesses, surtout les promesses à Sukkot. La promesse qui parle du fait que tu viens bientôt pour nous donner une vie éternelle. C'est un grand don. Mais Seigneur, peut-être ce n'est pas tout le monde qui écoute, qui ont reçu ce grand don. Mais comme Pierre a manqué, comme Salomon a manqué dans sa sagesse, Seigneur, tu nous donnes une autre chance. Même si on se rend à Carpi et pas à Capri, on peut ajuster notre tir. Si vous désirez ajuster votre tir et recevoir le pardon du Dieu saint, 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 contre qui, si tu as menti juste une fois, tu mérites d'être puni de toute la loi. Vous avez l'occasion de recevoir son salut gratuitement, cette eau douce aujourd'hui, et de ne pas être remporté par les eaux des torrents d'eau de jugement. Il est encore temps d'ajuster votre tir. Priez avec moi. Seigneur, je sais que j'ai pas fait des bonnes choses dans ma vie. Je sais que je mérite d'être puni pour mes péchés. Jésus a pris ma punition pour moi. Et à cause de Jésus, je peux recevoir sa justice. Je ne peux jamais mériter ta justice par mes bonnes œuvres. Je reçois la justice de Jésus par la foi, uniquement par le sacrifice de son sang parfait. Merci de m'avoir accordé la vie éternelle pour toujours. Merci pour ce grand cadeau. Aide-nous à garder le feu de cet espoir dans mon cœur. Que je rende gloire à ton nom. Amen.
Fermez aussi. Peut-être que vous êtes ici, puis vous êtes comme Pierre ou Salomon. Puis, dans le message, on a vu que Salomon n'était pas capable d'appeler Dieu par son nom et Pierre n'était pas capable de dire à Jésus qu'il l'aimait. Puis on a vu que Pierre a fini martyr. Il était prêt à mourir pour son Seigneur. Il l'aimait de tout son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus a dit, « Allez dire à Pierre et aux autres que je suis vivant. » Il voulait que Pierre sache qu'il était ressuscité, même s'il l'avait renié. Pourquoi Pierre parmi les autres? Bien, parce que Dieu l'avait choisi pour guider les douze, mais certainement parce que Pierre avait besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour vivre comme un passager sur la terre. Il n'est jamais trop tard pour ne pas avoir honte de son Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour recevoir la grâce de Dieu ici-bas. Et peut-être que vous êtes comme Pierre ou comme Salomon qui n'avez pas refusé à vos yeux des choses à regarder ou des pensées à entretenir. Puis vous n'osez pas regarder au ciel comme le publicain qui se frappait à poitrine puis qui disait « Seigneur, sois apaisé envers moi ». Peut-être que vous regardez votre vie puis vous dites « Crime, je suis loin d'habiter dans une tente. Je suis loin de vivre dans la mélancolie de ce paradis perdu. Je suis loin d'avoir hâte que ce royaume millénaire vienne, que ce règne du Messie vienne, parce que je suis trop occupé par les choses de ce monde. » Puis encore une fois, c'est Dieu ce matin qui vient cogner à votre porte, qui vient vous dire « Va te laver à la piscine de Siloé. Va à l'église Grâce et Vérité, puis lave-toi dans l'eau de la parole. Puis vois. Vois ce que tu ne voyais pas avant. Puis vois qu'on n'a pas besoin d'être meublé parce qu'on est encore en voyage. Vois qu'on est là pour préparer notre éternité puis celle des autres. Puis reçois la grâce de Dieu ce matin. Jésus est prêt à pardonner, est prêt à laver de sa parole puis que tu puisses l'appeler par son nom puis que tu puisses lui dire que tu l'aimes, que tu puisses vouloir vivre pour lui puis abandonner tes péchés. Reçois son pardon, sa grâce. Que je prie pour vous, je prie pour chaque membre ici dans l'Église, ceux qui écouteraient cet enregistrement, qui vivaient comme le monde, mais qui avaient été rachetés par un grand prix, et que vous êtes appelés à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. C'est un appel à la consécration ce matin. C'est un rappel de nous dire de ne pas se faire une cité ici-bas, de vivre sur la pointe des pieds, avec le manteau sur le dos, comme on prenait la Pâque, avec un manteau sur le dos et un bâton à la main. La première comme à la dernière fête, on doit attendre notre Messie. On doit vivre pour lui. On doit l'attendre. On doit avoir hâte à son retour. Que cette mélancolie du paradis perdu soit aussi votre espérance ce matin. Si vous vivez un deuil, si vous vivez de la maladie, si vous vivez des choses qui ne sont pas tout à fait le paradis ici-bas, bien, que ça aussi soit votre succote. Vous puissiez dire, il n'y a rien de permanent ici-bas, mais il y a un trou dans mon plafond, puis je vois les étoiles. Et le Dieu qui a promis à Abraham qu'on serait une multitude, il ne peut pas mentir. Et puis un jour, on va être dans sa présence, dans la paix de sa présence, dans la lumière de sa présence. Votre Sukkot, c'est votre maison, c'est l'endroit où vous ouvrez la Bible à chaque jour. C'est l'endroit où vous vous réfugiez dans sa parole. Dieu vous appelle à le connaître, il veut se faire connaître à vous. Merci Seigneur pour cette parole qui est venue nous faire du bien, qui est venue nous détendre, qui est venue nous faire aspirer aux choses les meilleures. Merci pour Jackie. Je te demande de la bénir. Bénis-la comme elle nous a bénis, Seigneur, ce matin. Que ta paix repose sur elle. Amen. Alors, si vous voulez rester...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.